toutes et à tous. Moi, je suis très contente de vous revoir tous parce que je vous attendez pas. Ça va venir. Ça va mieux maintenant?
Non, pour l'instant, mais on entend.
Alors, qui s'occupe? Ah, ça y est. Bon, donc, je vous disais bonjour et bonsoir à tous et à tous, parce que je suis très contente de revoir des gens. Je pense à Michel, je pense à, bien sûr, à Roland Desbordes, je pense à Yves Lenoir, je pense à plein de gens, je pense surtout aussi à Paul Lanois, ou en 86. Ben, vous savez qu'on n'était pas très nombreux. Par rapport à ce qui caractérise le nucléaire, c'est le mensonge. Quand on voit même Hiroshima, toutes les informations qui ont été données, on a eu un mal fou à les obtenir et on ne les a pas toutes. Quand vous avez vu Tchernobyl, et moi ça m'a conduit à créer la CRIRAD, quand vous avez les témoignages sur Fukushima, vous voyez qu'on a toujours le même type de désinformation au niveau des organismes qui sont là pour promouvoir le nucléaire. Et c'est pour ça que je voulais intervenir à la suite. Parce que c'est la création de laboratoires indépendants. C'est la création d'organismes indépendants qui sont la garantie d'obtenir l'information. Et ça veut dire qu'il faut mobiliser, si vous voulez, les citoyens sur le plan international pour dire que le pouvoir, nous l'avons. Mais encore faut-il s'organiser. Hein, c'est pour ça que... et en même temps, il faut aussi... Et moi, j'avoue qu'en 86, ça a été quand même très dur, parce que c'était un peu une révolution. C'était un peu créer une CRIRAD dans un pays aussi nucléarisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça n'a pas été quelque chose de facile. Et surtout après, de convaincre les élus d'avoir des balises qui fonctionnent en continu pour mesurer la radioactivité de l'air. Et vous voyez l'intérêt maintenant, parce que quand il y a eu Fukushima et qu'il y a eu ce nuage qui a aussi parcouru l'Europe, eh bien, on avait des moyens indépendants de mesure de radioactivité. C'est pour ça qu'il faut aider vraiment les Japonais de CRMS, qui est venu en France, et j'ai retrouvé mon Christian Courbon, là, qui est venu là-bas avec Bruno Charéron pour faire des mesures. C'est, voyez, la coordination et la solidarité internationale qui permettra d'obtenir une juste information. Alors maintenant, après, avant de venir sur l'Europe, quand j'ai été élue députée en 1997 jusqu'à 2002, il ne faut pas vous imaginer, mais sur le plan national, et surtout la France, c'est d'abord, un, on ne peut pas intervenir sur les normes, parce que les normes, on se sert de la CIPR et après, ce sont des recommandations européennes et ensuite, ça vient au niveau de la France. Sauf que la France, jusqu'à maintenant, n'utilisait pas les normes de radioprotection pour les enfants. Rappelez-vous de Tchernobyl, c'était que pour les adultes, mais pas pour les enfants. Alors qu'il y avait quand même des directives qui disaient qu'il fallait tenir compte des enfants. Et quand j'ai été élue députée, je n'ai pu... Vous voyez, me consacrer qu'au niveau des déchets radioactifs, et surtout, il ne voulait pas que je m'en occupe en disant « Tu es une femme, occupe-toi plutôt de la bioéthique. La radioactivité, c'est les hommes qui vont s'en occuper. Hein » Il faut quand même voir le climat lourd, parce que souvent, quand je discute avec des Allemands, des Suisses ou des Anglais, ils ne comprennent pas bien le climat français, mais c'est lourd, quoi. Hein, c'est lourd. Et alors l'Europe? Alors l'Europe, quand j'ai été élue en 2009, de suite, je me suis très vite intéressée à Tchernobyl. À Tchernobyl parce que l'Europe a donné des millions d'euros pour la sécurisation des réacteurs. Plus de 600 millions d'euros pour la sécurisation des réacteurs. Et maintenant, on met encore des millions d'euros pour ce dôme, hein, qui va cacher ce réacteur qui fuit, mais surtout de montrer que la technologie est capable, vous voyez, de cacher ce que je ne saurais voir. Bon. Quand il y a eu l'anniversaire sur les 25 ans de Tchernobyl, on a convaincu, non sans mal, la direction d'énergie pour dire « Vous avez mis des millions d'euros sur la sécurisation des réacteurs, sur le stockage des déchets radioactifs, où on a mis des millions d'euros, il n'y a aucun déchet radioactif qui est à l'heure actuelle stocké. Il faut quand même que vous le sachiez. Il y a un site de stockage des déchets radioactifs, mais on n'a pas le droit d'y entrer. Et tout ce qui a été financé par l'Europe, c'est nickel. Vous avez des ordinateurs, c'est pas incroyable. Mais ils n'ont toujours pas la qualification pour stocker des déchets dans les sites financés par l'Europe. Et par rapport à ça, on a convaincu certains membres qui sont venus, et d'ailleurs Louis les a rencontrés, pour voir la situation à Ivankov dans tous ces terrains contaminés. Et là, petit espoir, puisqu'il y avait eu un amendement au Parlement européen qui avait été voté par l'ensemble des parlementaires pour dire il faut aider les populations victimes de la contamination radioactive. Et suite à ça, on a pu dégager 4 millions d'euros. Donc on était assez optimiste, on s'est dit on va pouvoir financer ce centre écologie et santé. Et puis là, il faut faire un appel d'offres. Très bien, ça prend au moins un an et demi. Il y a un appel d'offres qui est fait. Et dernièrement, il y a 3 jours, qu'est-ce que j'apprends? Il n'y a plus d'appel d'offres. Ça va être des liens directs avec les Ukrainiens, qui n'a pas plus corrompu que les Ukrainiens. Alors, des fois, les bras m'en tombent. Pour vous dire la difficulté, vous dites, hop, il y a une ouverture. On se saisit de cette ouverture, on va pouvoir aider Yuri et son équipe. Et non, le lobby français, ukrainien, tout ça, veut récupérer l'argent pour choisir ses propres experts pour faire le suivi sur les victimes. Voilà. C'est pour vous montrer que la réalité, elle est pas facile. Alors après, Fukushima. Je me suis rendue à Fukushima, on a fait intervenir aussi les experts au Parlement européen pour connaître la situation. Et qu'est-ce qui est arrivé récemment? Je vois que la Commission dit aux parlementaires, parce que je fais partie de la Commission santé et environnement, nous dit, oh ben écoutez, on va supprimer le contrôle des aliments provenant du Japon. On prend que le césium, on va supprimer l'iode, puisqu'il faisait des mesures sur le césium 134-137, sur l'iode, sur le strontium, sur l'américium et le plutonium. Donc personne ne bouge, bon, j'interviens et je dis, mais de quel droit vous allez limiter le contrôle des aliments provenant du Japon? Alors ils me disent, mais les autorités japonaises nous disent qu'il n'y a plus aucun problème. Donc, eh bien, on va supprimer tout ça, mais ça nous coûte cher. Alors qu'on avait demandé, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, d'exportation de produits provenant du Japon. Pourquoi se faire contaminer bêtement avec du thé, avec des algues, avec des produits qui proviennent du Japon, alors qu'on a les mêmes produits non contaminés? Eh bien tout ça, c'est le libre-échange. C'est extraordinaire. Il ne fallait pas pénaliser les Japonais sur, vous voyez, l'importation des produits japonais. Alors, on n'a pas pu bloquer le système, et donc on importe quelques produits. Alors, c'est pas énorme, mais vous voyez que on est toujours dans la démocratisation radioactive des citoyens. Mais oui. Alors maintenant, sur la radioprotection. Alors, sur la radioprotection, on a un traité incontournable et horrible, qui est le traité Euratom. Ce traité, il a été signé en 57, il est entré en vigueur en 58, et il prévoit l'établissement des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs européens. Alors, il est là aussi pour promouvoir le développement de l'énergie nucléaire. Alors, vous voyez, deux choses. On a la promotion de l'énergie nucléaire, et c'est ce traité via la Commission qui va établir des normes de radioprotection pour la population et les travailleurs. Et la Commission élabore donc des directives qui sont relatives à cette radioprotection. Alors, celle qui est très importante comme directive, c'est la directive 96-29 d'Euratom, que Paul Lannoy connaît bien, et qui fixe, je dirais, les normes de base. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous en indiquer certaines. Par exemple, les États membres n'autorisent ni l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, ni l'importation ou l'exportation de tels produits. Rappelez-vous la Ferran, alors j'étais, quand on mettait des substances radioactives dans la laine de verre. C'était Isover qui faisait ça. Hein. Ben, on a pu le bloquer Mais parce qu'il faut connaître les textes pour dire, en aucun cas, on a le droit de rajouter des substances radioactives. Mais c'est un combat de tous les jours. Deuxième grand niveau, c'est les contraintes de dose. Donc c'est toutes les personnes de moins de 18 ans qui ne peuvent être affectées à aucun travail qui en ferait des travailleurs exposés. Ben, je vous signale qu'il y a énormément à l'heure actuelle de stagiaires dans les centrales nucléaires françaises, hein, qui peuvent être aussi à proximité de zones contaminées. Il y a la dose, bien sûr, pour les travailleurs exposés qui sont à 100 millisieverts sur 5 ans, d'où les 20 millisieverts par an. Et puis, bien sûr, la dose pour les citoyens qui est à 1 millisievert. Vous voyez, ça, c'est cette directive qui donne tous ces éléments. Mais il y en a une à la fin aussi qui dit que dans les situations accidentelles, eh bien, il y a un certain nombre de, d'expositions professionnelles qui peuvent être supérieures à la limite de dose. Alors, quand il y a eu l'accident de Fukushima, on a vu qu'on n'a pas assez insisté, ce sont les sous-traitants qui ont pris des doses les plus importantes aussi à Fukushima. Les sous-traitants, donc ces gens, justement, qui sont moins protégés, moins suivis et qui prennent des doses les plus importantes. Et on a demandé aux Français, alors jusqu'à combien vous irez? Au début, c'était 150 millisieverts, puis après 250, on est prêt à aller jusqu'à 500 millisieverts. Donc ce qu'on demande en France, c'est donnez-nous la liste des travailleurs qui signent pour aller jusqu'à 500 millisieverts. Parce qu'il faut aller jusque-là dans la provocation. Dites-nous, si demain il y a un accident, qui ira? Et que les gens signent. 4 minutes. Ok. Donc, maintenant les lacunes. D'abord, il faut savoir que le Parlement européen est très rarement associé aux décisions d'Euratom de la Commission. Et quand il est, c'est qu'à titre consultatif. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple ne pas voter le budget d'Euratom. Et là, on se heurte à quoi? On se heurte à un Parlement européen qui est trop conservateur. On a une majorité du PPE, c'est le Parti populaire européen, où ils sont tous pro-nucléaires. Mais on a aussi une majorité de partis socialistes européens qui sont tous pro-nucléaires. Il reste qui? Les Verts? Quelques Gouets? Quelques libéraux? Mais on n'a jamais la majorité. Alors, on a eu quelques avancées sur les substances radioactives dans les aliments en cas d'accident nucléaire. Alors, c'était avant Fukushima. Donc j'interviens, j'étais co-rapporteur, le rapporteur confondait radioactivité naturelle artificielle, donc il a fallu bosser comme des dingues pour lui dire, mais un aliment à 1000 becquerels par kilo en cas d'accident nucléaire, si c'est pour un gamin, mais il va dépasser sa dose maximum ici. Et alors il me disait, oui mais le potassium c'est pareil, vous voyez, il faut revenir. Et il y avait 3 normes pour adultes, pour enfants et pour bétail. Donc vachement simple, mais en cas d'accident nucléaire, de regarder tout ce livre. On avait obtenu quand même au Parlement qu'on ne prenait que la dose pour les enfants. Et je leur ai demandé officiellement qu'ils me fournissent les scénarios qui leur ont permis de calculer ces niveaux au niveau des aliments contaminés qui étaient de l'ordre de 1000 becquerels, par exemple pour iode, le césium, etc. Eh bien, je n'ai toujours pas obtenu les scénarios. Donc vous voyez qu'on se heurte toujours à la confidentialité des données. Et après accident de Tchernobyl, nous on était à 1000 becquerels par kilo pour les aliments, et les Japonais étaient à 500. Et donc l'Europe a été obligée de s'aligner, vous voyez, sur les normes qui étaient fixées par les Japonais. Enfin, autre niveau, le manque de détection. Alors vous avez vu qu'il y a une pétition que la CRIRAD a lancée. Quand il y a eu ce fameux nuage, c'était en novembre 2011, qui provenait de Hongrie. Il avait survolé l'Europe pendant 1 mois. Et c'était de l'iode radioactif. Et personne ne savait où était, d'où venait, si vous voulez, cette source d'émission d'iode radioactif. Donc moi, j'avais interpellé la Commission en disant, mais comment se fait-il, avec tout le nucléaire qu'on a, les 142 réacteurs qu'on a sur l'Europe, qu'il y a un nuage radioactif et qu'on ne sache pas l'origine. Eh bien, c'est là où je me suis aperçu que, malgré dans le traité Euratom, l'article 35 et 36, qui oblige les États à s'équiper de mesures de radioactivité, d'appareils de détection, eh bien, ils n'avaient que des appareils de détection en microsieverts par heure. Donc, des microsieverts par heure, vous ne pouvez pas identifier si c'est de l'iode. Et il n'y a que seulement deux pays qui disposent, c'est la Suède et l'Allemagne, dans le cadre, vous savez, de l'OCTE, en cas, par rapport aux essais nucléaires. Il n'y a que deux pays, alors je vais dire la CRIRAN, hein, qui disposent de moyens de détection de ces mesures. Donc vous voyez le paradoxe, on a équipé l'Europe énormément de centrales nucléaires et on a très peu de moyens de détection de la radioactivité. Ce qui fait que demain, s'il n'y avait pas la CRIRAN avec tous ces appareils de détection, les pays, ils donnent ou ils ne donnent pas l'info, et on se retrouve dans la même situation. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant, concrètement? Alors, moi, je me disais, quand je vois l'OMS qui dissimule, comme à Tchernobyl, et ce rapport entre l'OMS et l'AIEA, je me dis qu'en tant que députée européenne, on pourrait peut-être faire une déclaration écrite. Sauf que ça ne touche pas directement les compétences de l'Europe. Mais au moins, ça aurait l'avantage d'informer les parlementaires. C'est quoi une déclaration écrite? C'est-à-dire, vous faites une déclaration, mais il faut faire signer plus de la moitié des députés, sachant qu'il y a 756 députés européens, donc ils nous ont envoyé plus de 350, et à ce moment-là, la Commission se saisit de ça pour faire quelque chose. Mais je me dis, au moins, peut-être d'un point de vue information, ce serait bien de faire une déclaration pour dire aux gens, mais ça suffit! On a eu Tchernobyl, on a eu Fukushima, on voit qu'on a une désinformation, il faut qu'on arrive à couper ce cordon ombilical. Et on demande à la Commission d'indiquer à l'OMS qu'on est en désaccord avec ça. Vous voyez, il faut qu'on bouge, quoi. Alors moi, je suis prête, j'ai toute mon énergie renouvelable pour vous, hein. Mais il faut qu'on trouve des moyens pour couper ce cordon. Et en même temps, obliger, si vous voulez, à chaque État à avoir ses moyens de mesure et surtout à divulguer l'information. Mais en dernier lieu, ce qu'il faut surtout, c'est qu'on sorte tous du nucléaire. C'est ça la solution. Si on ne veut pas avoir d'accident nucléaire, que ce soit au Japon, que ce soit en France, dans tous les pays, il faut sortir du nucléaire. Merci.